7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Téléphonie, nouvelles technologies, économie, l'innovation est partout. Sur nos écrans, dans l'énergie que nous consommons, dans nos villes, conçues pour être durables. Nous en parlons aujourd'hui avec l'écrivain, membre de l'Académie française et économiste Éric Orsenna. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir dans l'émission. Vous
Moi
publiez
aussi.
Le livre La fabrique du neuf avec Stéphane Quéré également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur Smart Business chez Engie, grand groupe énergétique français. Alors je vais citer l'une des premières phrases du livre que vous avez écrit tous les deux. L'innovation permanente, cette recherche éperdue du neuf et l'originalité de notre époque. Alors dans une telle effervescence, comment rester maître de sa vie? Les voisins, les voisines, qu'est-ce que l'innovation change pour vous au quotidien? Quel rapport avez-vous avec les réseaux sociaux par exemple? Ou si vous êtes entrepreneur, racontez-nous dans quel domaine vous innovez. On vous attend dès maintenant au 33 184 22 71 71 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi nous laisser des messages vocaux sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins et la planète se parle.
Et vous nous écrivez déjà sur Facebook, les voisins. Allô Terambi est à Kinshasa, je vous lis son message. L'innovation a changé ma vie, surtout depuis que je travaille en tant que journaliste. J'ai du mal, je l'avoue, à être loin des réseaux, je suis toujours connectée. Alex nous écrit, lui, depuis Brazzaville. On dit souvent que le téléphone, l'internet favorise les échanges, mais ils nous conduisent parfois à réduire les visites et les rencontres avec nos proches, puisqu'on peut échanger à distance. Et puis, Dian est à Dioulou au Sénégal, mon village vient d'être électrifié il y a juste 20 jours. Du coup, tous les jeunes se réjouissent parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter les informations et les matchs de foot à la radio. Alors tout ça nous a véritablement ouvert les yeux vers une nouvelle vie.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Sommes-nous en pleine troisième révolution industrielle? C'est l'idée à laquelle vous adhérez tous les deux, je crois. On va écouter sur le sujet Jeremy Rifkin, économiste américain, au micro de Europe 1.
Quand on regarde tous les grands changements de modèle économique, il y a quelque chose de commun entre nouvelles formes de communication pour gérer les activités économiques, des nouvelles formes d'énergie pour faire fonctionner cette économie et des nouvelles formes de transport pour faire bouger d'un point à un autre ces résultats de l'économie. Quand ces trois choses-là arrivent ensemble, ça change absolument tout. Je vais vous donner un exemple. Au 19e siècle, la première révolution industrielle, la presse à vapeur, le télégraphe, ajouter à cela du charbon bon marché et des locomotives sur des chemins de fer nationaux. Au XXe siècle, deuxième révolution industrielle, l'électricité centralisée, le téléphone, la radio et la télévision, et puis du pétrole bon marché et le moteur à combustion interne, des voies rapides et des voitures. Cette deuxième révolution industrielle est en train de mourir. Elle est en soins intensifs. Elle ne sera plus jamais ce qu'elle était.
La deuxième révolution industrielle serait donc à jeter aux oubliettes désormais. C'est l'heure, Éric Orsenna, d'une troisième révolution industrielle. Alors, quelle forme prend-elle aujourd'hui?
Alors, Jeremy Rifkin en parle un petit peu. Évidemment, il y a une explosion des communications. Il y a un bouleversement complètement de l'énergie. Et un bouleversement accéléré. Quand on se rend compte qu'il y a encore une quinzaine d'années, vous aviez en France Gaz de France, Électricité de France, extrêmement centralisée, qui fabriquait de l'énergie de la même manière qu'on soit à Dunkerque ou à Nice, et en se moquant complètement de tout le CO2 qu'on dégageait. Et encore des énormes installations, alors que maintenant c'est miniaturisé, c'est changé en fonction de toutes les autres possibilités, et que les consommateurs ont leur rôle, et que les entreprises petites et moyennes peuvent s'introduire. Donc c'est un bouleversement énorme. Et alors ce qu'on pourrait compléter, c'est ajouter l'autre révolution, qui est la révolution biologique. Hein, il se trouve que je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur, donc une sorte de reporter de ce qui se fait à l'Institut Pasteur. Évidemment, ce qui se passe en biologie touche notre identité même avec les manipulations génétiques.
Avec beaucoup de questionnements aussi éthiques. Alors, l'idée de ce livre, La Fabrique du Neuf, vous est venue de rencontres dites matinales de l'innovation.
Absolument.
Des rencontres régulières qui ont réuni près de 150 intervenants, entrepreneurs, artistes, élus, architectes. C'est bien ça, Stéphane Quéré ?
Absolument. Alors, tout a commencé justement par ce dont parle Jérémy Rifkin, c'est-à-dire la révolution énergétique, notamment. On est dans un monde où l'énergie devient décentralisée, renouvelable, et où on est passé par plusieurs phases. C'est-à-dire que le consommateur était passif, il attendait qu'on lui propose de l'énergie, et puis il est devenu plus acteur, c'est-à-dire qu'il s'est mis à vouloir maîtriser sa consommation d'énergie, et puis maintenant il veut même en maîtriser la production, puisqu'on peut produire de l'énergie, à l'échelle d'une ville, d'un bâtiment, d'une maison, d'une usine. Et donc ce monde est en pleine mutation. J'ajouterais juste quelque chose par rapport à ce qu'a dit Jérémy Rifkin. Il y a un autre phénomène qui à mon avis est très important, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des briques, hein, l'énergie, la mobilité, mais il y a aussi la vitesse. Tout va beaucoup plus vite et tout change plus vite qu'avant.
Et comme dit un autre intervenant dans la vie publique de notre pays, tout ça est en même temps. Donc c'est en même temps accéléré. C'est-à-dire avant on avait une transition et puis une autre transition, on avait le temps de se remettre un peu, troisième transition, maintenant c'est tout en même temps. Donc c'est accéléré. C'est accéléré
par le
réseau.
Ce qui peut être un peu perturbant.
C'est très perturbant, parce que évidemment on remet en cause des fondamentaux, des repères, des identités. Donc, alors il y a des gens terrorisés qui entonnent le refrain, c'était mieux avant, et puis d'autres qui au contraire sont gourmands de tout ce qui est nouveau.
Voilà. Alors vous l'écrivez, nos sociétés sont condamnées à innover ou à périr. Et Eric Orsenna, vous citez le paléontologue américain Stephen Jay Gould, qui s'intéresse à la concurrence féroce entre deux espèces de poissons.
Entre deux espèces de poissons. Donc, je suis passionné, moi, par les histoires naturelles. Et donc, il raconte l'histoire de poissons qui étaient en concurrence avec d'autres poissons. Alors, il y a des poissons qui nageaient extrêmement vite, et puis d'autres poissons qui nageaient beaucoup moins vite parce qu'ils avaient des nageoires un peu calcifiées, rétrécies, un peu dures. Alors, dans un premier temps, ceux qui nageaient très vite, ils bouffaient tout. Et puis les autres, un peu maladroits, ils bouffaient rien. Et puis, il y a de moins en moins d'eau dans les endroits où ils sont, dans les étangs, etc. Et donc, ceux qui ont des nageoires un peu calcifiées, ils commencent à marcher. Et alors, c'est les autres qui étaient très rapides qui commencent à mourir de faim. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Et l'exemple, c'est... on peut donner un autre exemple dans le monde de l'industrie, c'est l'exemple de Kodak. Kodak, c'est formidable. Donc, imaginez que Kodak gagnait un maximum de fric, non pas avec les appareils de photo, mais avec les pellicules. Et on leur disait, ça va changer, parce que quelqu'un chez Kodak avait inventé le numérique. On disait, non, le numérique, ça viendrait plus tard. Et puis, ils sont morts avec cette phrase incroyable, ça durera bien aussi longtemps que nous. Ou, vous n'allez pas apprendre mon métier. Ou, on a toujours fait comme ça. Ça, c'est ce genre de phrases qui sont des phrases qui préfigurent la mort.
Cette entreprise n'a pas su emprunter, en fait, à temps le chemin du numérique.
Alors justement, c'est pour ça que nous, chez Engie, on a décidé de bouger. Voilà, on a souhaité être un dipneust peut-être un tout petit peu plus sexy, parce que c'est très très moche, hein, un dipneust.
Très moche, dont on parle.
Et de pouvoir continuer à opérer dans ce monde qui bouge. Et pour ça, il faut être ouvert. Il faut échanger et écouter. C'est pour ça qu'on a créé nos matinales de l'innovation. Alors au début, on a commencé en travaillant sur des thèmes qui étaient peut-être proches de l'énergie, du monde dont je viens. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ça allait très loin, que l'impact de ce que nous faisons chez Engie va plus loin et qu'il y avait des sujets extrêmement importants qui nous impactaient aussi. Et donc on est parti de l'énergie et puis on a parlé des consommateurs, de la santé de demain. On a abordé énormément de sujets ensemble. On est parti d'une espèce d'aventure qui nous a un peu échappé. Et cette aventure, on a voulu en tirer, je dirais, la substantifique moelle dans le livre.
Dans ce livre. Et l'innovation, c'est une question de survie aussi, en fait, en somme, pour ces entreprises.
Absolument. Si on veut continuer à avancer sur notre vélo, on est obligé de bouger. C'est une des métaphores qui est dans le livre. Et donc, pour avancer, il faut pas seulement des idées. Il faut écouter, s'ouvrir, risquer, tenter. Et c'est comme ça qu'on avance.
Alors, on va s'intéresser à l'une des formes que peut prendre cette innovation, l'accès à l'information et aux nouvelles technologies. Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et on va accueillir une voisine tout de suite.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Bonjour Dimo.
Bonjour.
Vous êtes à Libreville, au Gabon. Vous avez 36 ans. On vous écoute, Dimo.
Mon expérience, je voudrais la partager au sujet des NPK. Spécialement sur les réseaux sociaux.
Alors, quelle expérience vous en avez? Êtes-vous maître de ces technologies-là?
Je peux affirmer que oui, dans la mesure où lorsque j'étais sur Facebook, je me rendais compte que c'était des gens qui partageaient leur vie privée avec des commentaires sans fondement. Et du coup, lorsque je recevais des notifications, ça m'embêtait, ça m'énervait. Et j'ai dû abandonner mon ancienne page pour en créer une nouvelle sur laquelle je n'ai pas d'amis. Je refuse même les invitations. Et je suis juste abonnée aux pages d'actualité. Donc ça, c'est concernant Facebook.
À des pages d'information, c'est ça?
Juste des pages d'information telles que RFI, Mediapart, Afrimedia.
L'information de qualité, c'est bien.
Et je crois maintenant, oui. Concernant le moteur Google, j'adore parce que je peux faire des recherches facilement, même si je ne m'empêche pas de plonger dans les livres. Et WhatsApp aussi, j'aime beaucoup. Donc, hier, j'ai vécu une expérience qui m'a aidée. Donc, il y a ma fille qui n'avait pas encore la totalité des cellules. Et j'ai dû appeler la grande sœur de sa camarade de classe qui a juste filmé la page des exercices concernés. Et elle me l'a transféré via WhatsApp. Donc là, ça m'a vraiment aidée.
Ah oui, elle vous a envoyé en fait la vidéo de la page de cet exercice pour les devoirs de votre fille.
Voilà, c'est ça. Juste la photo, pas la vidéo.
Donc ça peut être très utile. Merci beaucoup Dimo pour ce témoignage. Une réaction, Eric Orsena?
Oui, moi j'aimerais. Il y a trop longtemps que j'ai pas été à Libreville, donc moi je suis passionné par les matières premières, donc passionné par le Gabon et passionné par la forêt que vous avez qui est absolument sans égale dans le monde.
Et alors pour revenir sur les réseaux sociaux, vous l'écrivez, on a cru longtemps que les réseaux sociaux allaient se substituer aux échanges réels, mais ce n'est pas le cas, comme l'ont montré plusieurs études de l'université Harvard. Heureusement, il existe encore la machine à café, Stéphane Carré.
Absolument, absolument. Les réseaux sociaux permettent de ne pas perdre de contact avec des gens qu'on a envie de revoir ou de voir. Donc c'est du plus, ce n'est pas censé se substituer. Le témoignage de qu'on vient d'entendre en fait foi. Hein. On a l'information plus rapidement, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant ou plus difficilement. Le mot-clé de tout ça, c'est utile.
Et en sage usage aussi.
Et vous êtes exact l'exemple même. On croyait que la télévision allait tuer la radio, et c'est la télévision qui sait plus trop comment ça va se passer. Et donc c'est la sorte de liberté au lieu d'avoir une imposition de l'information avec tout ce qu'on peut. Il y a une liberté croissante. Et puis c'est des nouveaux moyens d'expression. C'est vrai que pour draguer le SMS. C'est génial. Quand vous avez une certaine maîtrise de la parole écrite, c'est vrai que voilà, vous pouvez intriguer. Alors, et quand on commence à intriguer, c'est bien parti.
C'est un bon départ. Alors justement, sur cette question des relations humaines et de la drague, je vous propose d'écouter un extrait de la série Black Mirror, série doublée en français, qui s'intéresse à notre avenir avec une anticipation du pire. L'extrait a été choisi par notre réalisateur Nicolas Benita. On y parle de Tinder, le fameux site de rencontre.
Ça devait être galère avant que le système existe.
Comment ça?
Eh ben, tout simplement parce que les gens étaient obligés de faire tout le boulot eux-mêmes. Ils devaient chercher avec qui ils voulaient être.
C'est la paralysie du choix. Quand on a tellement d'options possibles qu'on ne sait pas laquelle choisir.
C'est ça. Exact. Et Le jour où ça ne collait plus entre les deux, les couples devaient se débrouiller tout seuls pour rompre l'un avec l'autre.
Ils devaient se débrouiller pour rompre, la vache.
Oui, un vrai cauchemar.
C'est mieux quand tout est planifié.
C'est clair. Tout est tellement plus simple quand on sait dès le départ où on va.
Ça vous fait rire, cette anticipation.
J'adore, j'adore. Mais j'ai un vrai problème avec les séries, c'est que je suis trop bon public. Et donc, je sais que si je plonge dans le monde des séries, voilà, on ne va plus me retrouver. Quand on m'offre une série, je vois tout en même temps. C'est-à-dire, je passe les 3 jours à tout voir. Donc, mais le Mirror, je vais être obligé d'y aller parce que je trouve ça très, très
long.
Mais l'amour, qu'est-ce que ça prend comme temps, etc. Qu'est-ce que c'est mieux maintenant,
mais Eric, j'adore ça. Au XVIIIe siècle, c'était difficile de larguer les... De se larguer, parce que là, j'ai l'impression qu'on explique que c'était super difficile et maintenant ça va être super facile, mais j'ai pas l'impression que c'était si difficile que ça. Hein.
Non, mais ça me ravit, moi, les possibilités, parce que c'est pas vrai. C'est vraiment ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est l'articulation entre le virtuel et le réel. C'est-à-dire, le virtuel bien géré, il accroît le réel, il accroît le possible. La question, c'est la liberté et la possibilité. Donc, les jérémiades en disant « Ah, c'était mieux avant, mais on était complètement coincés. » Moi, je vois avec mes enfants, le contact, il est plus virtuel, puisqu'on s'appelle sans arrêt, on échange des trucs, mais on se voit encore bien plus.
Et il existe.
Bien plus, il existe.
Vous mettez en garde dans votre livre, tous les deux, contre une innovation qui serait destructrice. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bah, c'est l'innovation qui fait table rase, en disant que, vous savez, c'est au fond la réciproque. Il y a les gens qui disent que c'était mieux avant, et puis les autres qui disent de toute façon, ça va être mieux maintenant. Et il faut quand même faire la part des choses. Moi, je suis très grand lecteur de Charamidou Khan, le grand Sénégalais, et qui dit cette phrase formidable, « Ce que nous allons apprendre, faudra-t-il ce que nous allons oublier ?» Et donc, il ne faut pas prendre non plus des vessies pour des lanternes. Il y a des trucs formidables et des trucs... Voilà, regardez ce qui est en train de se passer avec la mobilité. Donc, c'est l'explosion des trottinettes. L'explosion des trottinettes, ils vont à 35 à l'heure.
Électriques.
Donc, avant, c'était les trottinettes, ça faisait un peu d'exercice. Maintenant, pas du tout, ça va à toute vitesse et on ne sait pas où ça va aller. Donc, est-ce que c'était mieux avant ou pas ? Je ne sais pas trop ce que... Regardez Uber, c'était mieux avant ou pas ? Donc, je regarde un peu les choses. Donc, mais en tout cas, il y a une innovation, on va voir. Et puis, peut-être, on va l'abandonner, on va faire autre chose.
En tout cas, il faut s'y pencher, il faut s'y intéresser.
Le possible, le pourquoi pas. Le pourquoi pas, c'est le ressort de la vie. Pourquoi pas ? Alors, ça donne des vies personnelles un peu chahutées, parce que pourquoi pas ? Mais le pourquoi pas est quand même une merveille. C'est d'ailleurs le titre du bateau d'un très grand explorateur, Charcot.
Les voisins, les voisines, surtout, vous restez avec nous. Et n'hésitez pas aussi à vous saisir de vos téléphones, ces objets devenus essentiels à nos vies, pour vos témoignages sur ces innovations qui changent la vie. Ou vos questions, si vous en avez pour nos invités, un numéro pour cela, le 33 1 84 22 71 71. Alors, que perd-on et que gagne-t-on dans cette course effrénée à l'innovation ? Tout de suite, à trop courir, c'est sur RFI et c'est signé Gaël Faye.
De mauvaises herbes insoumises, les ardes, les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown et tous les mois, c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star. À l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, se vend sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'audimat. Du pain et des jeux pour calmer les ventres creux. Du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous, à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. À trop courir après mes rêves. À force des courbes se dessinent sous mon regard somnifère. J'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elles m'invitent au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage.
Aujourd'hui dans 7 milliards de voisins, quel rôle pour l'innovation dans nos vies? Nous recevons Éric Orsenna, économiste, écrivain, membre de l'Académie française qui vient de publier le livre La Fabrique du Neuf, justement aux éditions du Cherche Midi, avec Stéphane Quéré que nous avons le plaisir de recevoir, également directeur Smart Business chez le groupe énergétique français Engie. Alors on va parler un tout petit peu santé, le temps d'un instant, sans faire de concurrence à Priorité Santé, autre émission sur notre antenne. Je vous propose d'écouter la sénégalaise Maïmouna Ndourbaï, que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle a lancé l'appli M-Diabète, une appli qui permet d'envoyer par SMS des conseils à des malades atteints du diabète directement sur leur téléphone, avec un exemple très récent.
Je peux vous lire un exemple du SMS que j'ai reçu ce matin pour le Ramadan. Il est écrit ce matin, par exemple, si en milieu de journée ou d'après-midi, votre glycémie est inférieure à 0,7 g par litre, rompez le jeûne immédiatement, mangez et signalez-le à votre médecin. Tous les diabétiques ne savent pas, par exemple, que s'ils jeûnent, ils doivent contrôler plus fréquemment leur glycémie. Donc nous mettons l'accent sur la prévention qui se coûte beaucoup moins cher et qui peut, grâce à cet outil, grâce au mobile, être accessible au plus grand nombre qui résident par exemple dans les zones rurales où il n'y a pas des infrastructures de santé nécessaires. En moyenne, un Sénégalais parcourt 8 km pour avoir accès à un premier poste de santé.
Qui n'est pas forcément équipé,
qui n'a pas forcément les ressources humaines qualifiées. Donc nous ciblons non seulement les patients, ceux qui savent qu'ils sont déjà diabétiques, mais également la population générale pour les alerter et les conseiller, leur donner les mesures de prévention pour éviter la survenue de la maladie.
Et alors, comment vous faites pour avoir les numéros de toutes ces personnes-là, pour rentrer en contact avec elles?
L'inscription est volontaire. Donc, nous avons mis en place un numéro vert, un site web pour ceux qui ont accès à l'Internet. Et dans toutes les structures de santé, il y a des fiches d'inscription qui sont disponibles. Et nous faisons une vaste campagne de communication autour de la question pour encourager les gens à s'inscrire. En 2018, parmi ces 160 000 inscrits, nous avons 59 000 professionnels de santé. Et tout le reste, ce sont soit des diabétiques, soit des gens qui ne sont pas diabétiques, mais qui sont dans l'entourage d'un diabétique ou qui simplement désirent en savoir plus sur le diabète.
Et pour vous, qu'est-ce que ça évoque alors, cette idée d'innovation inversée?
Ça veut dire déjà trouver des stratégies locales. Il est temps pour nous de ne pas compter que sur des stratégies importées d'ailleurs.
Et si l'innovation venait des pays du Sud, et notamment du continent africain, et si la créativité émergeait de la contrainte pour répondre aux défis de la planète? Qu'est-ce que ça vous inspire, Stéphane Quéré?
Alors, d'abord, l'innovation émerge souvent de la contrainte. Voilà. Ça peut être d'une envie, mais c'est souvent d'une contrainte. En l'occurrence, là, avec ce témoignage, on est bien dans un des emblèmes de l'innovation en Afrique. L'Afrique est un foyer extrêmement important d'innovation autour de ces questions de téléphone portable. Il ne faut pas oublier que c'est au Kenya qu'on a inventé le paiement par mobile.
Avec M-Pesa, très prisé.
Exactement. Voilà, il n'y avait pas d'infrastructure de téléphone fixe. Le téléphone portable, et il y avait parfois des problèmes d'infrastructure tout court, et le téléphone portable a beaucoup aidé à l'accessibilité, au paiement, pour des gens qui n'avaient pas forcément de compte bancaire. Enfin,
y a énormément de choses. Avec des taux de pénétration mobile qui sont très importants. Par exemple, 102% en Côte d'Ivoire, ça veut dire
Aujourd'hui, en France, téléphone portable par personne. On est en train de déployer des innovations qui ont été découvertes en Afrique.
C'est vraiment voilà. Le concept d'innovation inversée.
Et en santé, l'exemple qui a été donné sur le diabète est tout à fait pertinent, parce que en plus il y a un taux de diabète qui commence à exploser au sud, avec des habitudes alimentaires qui viennent de chez nous, avec du sucre, et donc ça explose. Et donc avec des infrastructures hospitalières qui sont en général très très dispersées. Donc pouvoir donner des diagnostics aussi. Et puis un autre élément qui est très important, c'est que, regardez, un médecin, pendant toute sa carrière, il aura reçu 5000, 6000 patients. Donc son expérience vient de ces 6000 patients. Avec les nouveaux rassemblements des données, il aura ce qu'on appelle les cohortes, c'est-à-dire le nombre de patients qui va dépasser le million. Et donc on pourra faire des diagnostics un peu automatisés qui souvent trompent bien moins que les médecins. Et le médecin a un vrai rôle à ce moment-là d'accompagnement, et ce que ne peuvent pas remplacer les machines. C'est ça ce qui est. Si on maîtrise, les machines permettent de donner plus de place à l'humain. Alors au lieu d'obliger l'humain à faire des tâches un peu bêtes que les machines peuvent remplir. C'est ça qui est intéressant. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, et notamment en médecine. Je connais bien cette question étant ambassadeur de l'Institut Pasteur et du réseau international.
Alors, on parle aussi dans votre livre des villes durables, hein, d'économie circulaire, ou aussi l'énergie, l'accès à l'énergie a toute sa place. Stéphane Guéry, quels sont les grands enjeux pour les villes aujourd'hui ?
Alors, on a beaucoup travaillé avec Eric sur les questions urbaines. Il est clair qu'aujourd'hui, ce phénomène de consommateur... Donc consommateur, acteur, producteur, est particulièrement visible dans les villes qui, de plus en plus, quand elles le peuvent, souhaitent avoir la maîtrise de leur avenir énergétique, par exemple.
Et alors, quel rapport avec les consommateurs, comment vous les appelez ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, une ville veut pouvoir maîtriser non seulement la façon dont l'énergie est consommée, mais la façon dont elle est produite, et la produire à partir de ressources locales. Ce qui fait que, en fonction de la géographie, puisque la géographie c'est extrêmement important, eh bien on va pouvoir produire de l'énergie à partir de la géothermie, à partir du solaire, à partir du vent, en utilisant les déchets, l'économie circulaire.
Et donc l'énergie se réinvente.
Exactement, et donc on ne réfléchit plus du tout à l'énergie de la même façon qu'avant, et quand on travaille avec des villes, on réfléchit à la maîtrise de l'énergie par les villes, pas seulement pour les villes.
Quels autres enjeux pour les villes ?
Et alors, c'est intéressant parce que c'est à l'échelle de la ville, ça peut être à l'échelle du quartier. On décide de développer le solaire dans le quartier. Ça peut être à l'échelle du bâtiment. On a vu en Allemagne des façades où il y avait des sortes de murs de végétaux, et on faisait en photosynthèse, on trouvait des choses. Ça peut être à l'échelle aussi de l'appartement. Par exemple, je suis en train de reconstruire une maison en Bretagne. Et alors, est-ce que je vais faire du solaire ou non ? Et si je suis cohérent, je vais essayer de trouver du solaire qui permettrait plus tard de recycler les panneaux que j'ai installés. Vous voyez ? C'est-à-dire que on a la maîtrise à notre échelle. Et donc, c'est toutes ces sortes d'échelles qui s'emboîtent les unes à partir des autres, comme une sorte de poupérus, au lieu d'être imposées complètement d'un centre parisien ou ailleurs.
Et alors, au-delà de l'énergie, qu'est-ce qu'on entend par ville durable ou soutenable, comme
alors,
vous
les villes
les
durables,
dans le livre.
Une ville, on a réfléchi ensemble sur la notion de la bonne ville. La bonne ville, c'est d'abord une ville efficace et même efficiente, c'est-à-dire qui rend des services au meilleur coût. Donc, les gens, ils veulent quoi ? Ils veulent de l'eau. Et il y a de moins en moins d'eau, vous savez. Je reviens de longue étude là, sur la Garonne, il y a de moins en moins d'eau dans la Garonne. Donc on veut de l'électricité, etc. Et puis on veut de la mobilité. Vous voyez bien que la question de la mobilité est très importante, parce que d'abord c'est un peu congestionné, et en même temps la mobilité est un des facteurs qui crée le plus en plus de CO2 et de la pollution. Donc ce qui est très intéressant dans les villes, c'est que c'est à la fois le problème et la solution. C'est-à-dire les villes qui décident. Et regardez ce qui se passe avec Trump, c'est très intéressant. C'est que Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord sur le climat, mais les villes américaines disent non. Nous, on va gérer notre affaire et nous, on va être en avance sur l'accord de Paris sur le climat.
Et l'innovation peut passer donc par les villes. Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour vos réactions, vos témoignages. On vous attend et on va accueillir un voisin tout de suite.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Bonjour à tous.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour, vous avez 50 Allô ans, oui, vous êtes, on vous entend, vous êtes agriculteur dans la campagne d'Antananarivo à Madagascar, on vous écoute.
Oui, donc moi je voudrais, je suis vraiment sidéré par le, par votre, par notre, votre invité là, et moi je voudrais intervenir dans le sens où l'innovation, ça veut dire que c'est un enchaînement de découvertes, c'est le progrès, et souvent c'est utile, mais pour moi, à mon avis, ça pourrit la société, l'innovation. Parce que c'est à, en principe, on crée des besoins par rapport à la publicité, donc. Vous inventez des choses qui nous intéressent, mais qui dépassent généralement nos moyens, pas seulement nos moyens financiers, mais intellectuels. Il y a des ordinateurs qui sont déjà périmés chez vous, qui n'ont même pas été présentés chez nous, dans le sud. Les innovations, ça nous coûte. Et on a de l'eau dans la bouche en voyant toutes ces nouvelles choses qui sont présentées généralement par la publicité et que nous, on regarde le faire.
Oui. Et pour vous, en fait, oui, allez-y.
La question que je pose, c'est où est-ce que ça va mener ces innovations? Au pays du Nord, vous êtes déjà dans la lune, dans les étoiles. Nous, là, on vous regarde faire et jusqu'où ça peut aller pour nous autres dans le sud. Donc on est condamné à regarder à la peine ici. Est-ce que pour nous, les recherches... Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça au moment Parce qu'on nous laisse rattraper le retard.
Merci pour votre témoignage, Ratouf. Alors, comment vous réagissez à l'écoute donc, de Ratouf qui nous parle d'une innovation à deux vitesses, en fait, hein, qui peut être aussi source de frustration?
Je comprends bien, mais il y a un certain nombre d'innovations, justement, qui sont pas du tout dans ce cadre-là. Quand on est dans des zones, par exemple en Afrique, où il n'y a pas de réseau électrique, il n'y a pas d'électricité. Donc par exemple, on a du mal à utiliser l'élément le plus important, c'est-à-dire son téléphone portable, où il n'y a pas d'éclairage, qui est un problème pour la sécurité. Eh bien, l'innovation, enfin en tout cas des découvertes récentes, et l'assemblage d'un certain nombre de technologies permettent d'électrifier avec du solaire, des batteries, le paiement par téléphone portable, en fonction de la consommation, permet d'apporter l'électricité à un certain nombre de villages en Afrique. C'est ce que fait Engie en Tanzanie et en Ouganda, mais d'autres le font. Mais là, on a des innovations qui me paraissent utiles. Il y en a qui sont peut-être paraissent lointaines, je comprends, mais il y a des choses concrètes qui se font et qui sont... pour l'ensemble de la population.
Éric Orsenna.
D'abord, je dirais à notre ami que le Sud, c'est abstrait. Et qu'il y a du Sud très très avancé et beaucoup plus que le Nord. Et qu'il y a du Nord complètement archaïque et il y a un Sud extrêmement dynamique partout. Il se trouve que sur les 50 pays d'Afrique, j'étais dans 34. Et donc je me suis promené partout et j'ai vu des innovations partout et notamment dans le domaine agricole. Sans innovation, on ne peut pas augmenter les rendements. Alors comment vous pouvez nourrir les gens si vous augmentez pas les rendements, étant donné que la population augmente énormément? Le goutte à goutte, c'est formidable. Savoir des nouvelles plantes qui peuvent supporter la tension sur l'eau, ce qu'on appelle le stress hydrique, savoir mieux analyser les sols, tout ça, si la population n'avait pas augmenté, on pourrait imaginer de rester dans le monde ancien. Mais on est passé d'un milliard à 9 milliards. Alors comment nourrir les gens? Comment on soigne les gens? Comment on les transporte alors qu'ils se rassemblent? Donc c'est vrai que c'est un peu une course en avant, mais la vie est une course en avant aussi.
Les voisins, les voisines, vous restez avec nous, on continue d'innover dans 7 milliards de voisins, ou en tout cas d'y réfléchir, avec nos invités Eric Orsena et Stéphane Kéré, qui publient tous les deux La Fabrique du Neuf. Mais tout de suite, petite pause musicale, Zen Changes sur RFI, c'est signé Thundercat. Nobody move, there's blood on the floor. And I can't find my heart. Where did it go? Did I leave it in the cold? So please give it back, does this not yours to take? It must have felt when I lost my mind. Deep in the cup. Écoutez, 7 milliards de voisins, on parle d'innovation aujourd'hui. Alors, l'heure est aux start-up, hein, notamment, on l'a compris, même si, selon l'INSEE, en France, une start-up sur deux dépose le bilan lors de ses deux premières années d'existence. Stéphane Kéré.
Peut-être, mais il y a beaucoup de start-up.
C'est risqué
d'innover. Beaucoup de start-up qui, bah oui, qui osent. Alors, quand on ose, si on cherche le résultat garanti, on ne fait rien. Il y a beaucoup de start-up qui se créent. Qui réfléchissent aux usages et aux manques, aux pain points, comme on dit en bon français, c'est-à-dire aux problèmes, et essayent d'en trouver le plus rapidement possible la solution. Et ce sont des mouvements extrêmement intéressants qui permettent de résoudre pas mal de problèmes. Parfois, elles travaillent avec des grands groupes comme nous. Parfois, elles deviennent elles-mêmes de grosses entreprises. On peut aller même jusqu'au GAFA. Hein. C'est une ébullition optimiste et très positive, les startups.
Et vous le dites, il y a un intérêt des deux côtés, en fait, pour les startups de s'aligner avec des grands groupes dans l'idée d'une symbiose, hein,
bien
pour
sûr,
reprendre des mots biologiques.
Ils vont vite, ils s'adaptent vite. C'est plus difficile pour des grosses entreprises. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est les amener vers nos clients. Donc leur apporter le plus important, parce que le plus important pour une start-up, c'est pas forcément de faire une levée de fonds, c'est de trouver des clients. Et donc, on travaille beaucoup avec elles, on fait des appels à projets sur des cas très concrets où on cherche des solutions, on ne les a pas. On a l'honnêteté de dire, voilà, j'ai pas la réponse. Est-ce que vous l'avez ?
Par exemple.
Et des startups viennent et nous aident à apporter la solution. Alors, ça peut être des choses très, très, très techniques et très bêtes. Comment est-ce qu'on évite le gel sur des pales d'éoliennes ? Voilà. Mm-hmm. Comment on fait ?
Il y a plein de questions qui se posent à mesure qu'on a de plus en plus d'éoliennes.
Il y a plein de technologies qui permettent de le faire avec de la peinture, de l'électricité, des matériaux. On cherche des solutions pour par exemple dématérialiser le parcours patient dans un hôpital. Les hôpitaux s'équipent de technologies d'information. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer la gestion du parcours patient ? Et ça, c'est des questions qu'on nous pose parfois. On n'a pas la réponse, donc on va travailler avec une start-up.
Dans le livre, Eric Arsena, vous évoquez beaucoup de termes liés à la nature, avec cette idée que c'est aussi lié à la nature, en fait, l'innovation.
Alors, il y a un mécanisme que j'aime beaucoup, qui s'appelle le biomimétisme, c'est-à-dire imiter le bio, imiter la nature.
Concept né dans les années 90.
Exactement, et qui se voit beaucoup, parce qu'au fond, quelle est la plus grande des start-up qui a le mieux réussi, qui est la plus durable ? C'est la vie. La vie, c'est voilà, 3 milliards et demi d'années, donc on peut dire que c'est une start-up qui a marché. Donc quand quelque chose marche assez bien, au lieu d'être prétentieux en disant « je suis meilleur qu'elle », regardons un peu ce qui se passe. Alors il y a des tas d'exemples, quand on prend la libellule, c'est un super, super hélicoptère. On donne l'exemple là, du nez, de la pointe des trains à grande vitesse japonais. Ils faisaient des bruits infernaux quand ils traversaient les tunnels. On a dit, comment est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on a imité le martin pêcheur. Parce que figurez-vous que le martin pêcheur, pour se nourrir, il doit piquer les poissons, il doit rentrer dans un milieu différent, il passe de l'air à l'eau, et sans faire de bruit. Donc on a imité le nez. Et le velcro, c'est une plante, etc. etc. Donc vous voyez, donc on va chercher et il y a quelqu'un...
On va s'inspirer en fait.
Exactement.
Dans
et,
la
c'est,
nature.
Et c'est l'ancien, la l'ancien patron, l'ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle, Gilles Boeuf, qui est un merveilleux et qui cherche partout. Et il a un institut et il cherche partout les réponses à la nature. Et j'aime bien aussi cette idée d'être un peu humble. C'est-à-dire qu'on ne va pas maîtriser la nature. On va être en partenariat avec la nature. C'est ça aussi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a tout dominé, même dans les études, on s'est passionné pour l'histoire, on s'en foutait de la géographie. Parce que la géographie, c'est l'interaction et des lieux. On disait, l'homme, il peut être n'importe où pareil. C'est pas vrai.
D'ailleurs, vous le dites, il y a aussi un retour à la géographie,
lieu. Le climat, c'est la géographie. Le climat, le dérèglement climatique, c'est évidemment la géographie. Donc, arrêtons de se croire les maîtres du monde. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette nouvelle technologie, c'est aussi ça. Alors, ça peut être comme ça, se croire tout, on va tout réinventer. Mais en même temps, il faut écouter un peu ceux qui nous ont précédés. Enfin, ces forces qui nous ont précédés.
Vous évoquez ici dans le livre le concept de sérendipité, l'idée qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on cherchait.
Ça, j'adore. On trouve quelque chose, enfin, on cherche quelque chose et on trouve à côté. Et on trouve quelque chose d'autre. Alors, des milliers d'exemples, je sais pas moi, dans les laboratoires, par hasard, on avait quelque chose, et puis boum, on trouve une moisissure, c'est la pénicilline. On regarde comment ça marche, et bien ça marche très bien. Mais alors, il y a une phrase de Pasteur que j'aime beaucoup, « La chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». C'est-à-dire que, parce que moi j'ai des amis, d'enfants, etc., etc., qui disent « Bah alors, si c'est le hasard, j'ai pas besoin de bosser. » Si, tu ne trouveras la solution que si t'es préparé. C'est pas forcément la solution que tu inventais, que tu cherchais, mais c'est une autre. Mais si t'as pas bossé, t'as pas de terreau, donc rien ne pousse. Il y a quelque chose que j'adore, une phrase que j'adore, c'est « Plus je me plante, plus je pousse. »
Mais il faut essayer, déjà.
Plus je plante, plus je me plante, plus je pousse. Vive l'erreur.
Stéphane Kéré, on parle aussi dans le livre d'open innovation. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
L'open innovation, c'est justement innover à plusieurs. C'est-à-dire, ça peut être un grand groupe avec une start-up, des start-up ensemble. Et je reviens sur ce que disait Eric sur la géographie. Il y a des lieux d'innovation. Et donc, l'open innovation, c'est aussi, voilà, on est dans un lieu, on échange entre start-up, et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début. Et au-delà du fait qu'il y ait des relations, c'est le fait d'être toujours ouvert, c'est-à-dire de savoir dire « je ne sais pas » et aller voir si quelqu'un sait et travailler avec lui. Pour moi, c'est ça l'open innovation.
C'est ça qui est
le travailler ensemble.
Très intéressant, c'est que c'est là où on voit les réseaux, c'est très bien. Mais on voit bien que rien ne vaut l'échange, rien ne vaut l'effet machine à café. Donc on a réfléchi aussi sur la manière de travailler dans les entreprises. Comment on peut être... Et c'est vrai que l'aspect équipe, l'aspect... on parle de ça et puis brutalement une idée vous vient. Mais parce que vous êtes être humain, c'est-à-dire l'énergie elle est communicative, voyez. Et c'est pas juste à l'autre bout du monde, on dit... On a cru à un moment donné que les réseaux... allait remplacer ça. Et on communique énormément par réseau. Mais quand on se rencontre, bah, y a une sorte de magie qui s'appelle l'humain.
Et justement, on peut parler aussi de Louis Pasteur, grand innovateur, père du vaccin contre la rage en 1885, qui a comme vous été à l'Académie française, et sur lequel vous avez publié une biographie, voilà, intitulée La vie, 17. La mort, la vie. Et en fait, lui aussi, on n'a pas trouvé seul, il s'est appuyé sur des recherches.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, Pasteur n'était pas médecin. Il était chimiste de formation. Et les médecins, qui étaient furieux de ses découvertes, l'appelaient le chimiatre. Et ça, son principal génie, c'est d'avoir rassemblé des médecins, des physiciens, des mathématiciens. Quand on visite un laboratoire de Pasteur, il y a 15 spécialités. Il y a du professeur Bourgeron sur l'autisme, par exemple. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des informaticiens, il y a des spécialistes des animaux. Il y a des spécialistes de la visualisation, etc., etc. Donc c'est ensemble, parce qu'il faut croiser les regards. Le neuf se découvre que quand on croise les regards.
Alors, il y a aussi une limite qu'on n'a pas encore abordée par rapport à l'innovation, c'est l'obsolescence programmée, avec des appareils qui nous lâchent un an, deux ans après leur achat. Stéphane Guéret, c'est aussi une des limites de l'innovation peut-être ?
Bah, c'est une déviance de l'innovation, c'est pas une limite. normalement, on innove pour...
pour que
non
ça
pas
dure.
Pour vendre, mais pour être utile et pour satisfaire des besoins. Donc voilà, quand on est dans l'obsolescence programmée, on est dans une déviance de l'innovation.
Alors on arrive à la fin de cette émission, peut-être que vous avez un dernier conseil à donner tous les deux à nos voisins, nos voisines qui auraient peur de l'innovation.
Vive le savoir, vive le savoir. Moi je ne suis pas du tout scientifique, je suis écrivain, je suis économiste, donc ignorant. Eh bien, j'ai découvert la science, c'est-à-dire que la science, c'est possible et que c'est merveilleux de voir avancer comme ça l'esprit humain. Et en biologie, je commence à savoir deux, trois petites choses en biologie. C'est absolument merveilleux. Donc, apprenez ça et méfiez-vous des idées fausses. Méfiez-vous, par exemple, des gens qui disent « Ah, les vaccins sont dangereux ». On n'a jamais vu un traitement aussi efficace que les vaccins. Les gens qui disent « les vaccins sont dangereux », ce sont des meurtriers.
Stéphane Quéret, le mot de la fin.
Moi, je dirais osez, n'ayez pas peur et vous n'êtes pas obligé de tout savoir non plus.
Merci, merci beaucoup Eric Orsena de nous avoir fait l'honneur de venir dans notre émission. Merci à vous également Stéphane Quéret. Donc je rappelle que vous publiez tous les deux le livre La Fabrique du Neuf aux éditions du Cherche Midi. Et d'ailleurs lundi avec Emmanuel Bastide au micro, on parlera justement d'innovation low-tech, low-technology, ou avec l'art de la débrouille des technologies simples, locales mais durables avec des ingénieurs cette fois en plateau. Alors merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare cette émission. Nicolas Benita à la réalisation, Sigrid Azerwal en coulisses, Yann Leni pour vous répondre les voisins, merci également à Inès Edel Garcia et à Raphaël Lazizi et merci bien sûr à vous les voisins et les voisines pour vos appels, pour vos messages et pour votre écoute. Demain, 7 milliards de voisins, on va s'interroger sur le sens à donner à son travail. Quelle importance
cette question. Je reviens pour vous, les voisins.
Et que sont les bullshit jobs dans cet anglicisme à la mode pour désigner des métiers dits à la con? Comment faire en sorte que son métier ne soit pas sans intérêt? Avec plaisir. À demain, les voisins.